Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Appel sur l'actualité. Vous êtes chez vous, l'antenne de RFI vous est ouverte. On va répondre à vos questions d'actualité dans quelques instants. Et dans une demi-heure, dans la deuxième partie, comme chaque vendredi matin, vous en avez l'habitude, on vous retrouvera pour la libre antenne l'occasion de poursuivre nos discussions de la semaine, par exemple sur la course électorale en Côte d'Ivoire ou encore sur la crise politique au Mali, d'aborder aussi d'autres sujets que vous pouvez porter à notre attention et qui vous font réagir. Pour joindre l'équipe d'Appel sur l'actualité, rien de plus simple, 33 9 693 693 70. Sur WhatsApp, vos messages 33 6 89 28 53 64 et la page Facebook de l'émission Appel sur l'actualité. Mais d'abord donc, comme chaque matin, nous débutons avec vos questions. Première en ligne, c'est David qui est à Brazzaville. Bonjour David.
Bonjour François Mazet, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
David, habitué de l'émission, vous avez des questions sur le procès d'Omar El-Béchir au Soudan. Allez-y.
Le procès d'Omar El-Béchir, l'ancien président soudanais, chassé du pouvoir en 2019, s'est ouvert cette semaine à Khartoum. Il est poursuivi pour le coup d'État qu'il a mené au pouvoir en 1989. Ma première question, qui sont les personnes qui comparaissent au procès et est-ce que ce procès est très suivi au Soudan ?
Mais on va le demander à Alexandra Brangeon du service Afrique qui est avec moi. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Alors déjà, cette première audience, elle a été vite conclue faute de place dans la salle pour accueillir tous les avocats des accusés. Ça reprendra le 11 août. Ce procès, Alexandra, c'est bien sûr celui d'Omar El-Béchir, mais pas seulement.
Oui, au total, ils sont 28 prévenus, dont l'ex-président Omar El-Béchir. En 89, il était colonel dans l'armée soudanaise et avec l'aide d'un groupe d'officiers, il renverse le gouvernement démocratiquement élu de Sadek El-Mahdi, qui était à la tête d'une coalition de partis politiques. Omar El-Béchir déclare vouloir sauver le pays des partis qu'il qualifie de pourris. Il est nommé chef de l'État, chef du gouvernement et des armées. Et avec le soutien des islamistes, il restera au pouvoir pendant 30 ans avant d'être lui-même renversé en avril dernier. Alors, dans le box des accusés, des militaires, bien sûr, mais également des civils, d'anciens ministres, d'anciens vice-présidents, tous accusés d'avoir joué un rôle dans ce coup d'État. Par exemple, Ali Ousmane Tah, ancien vice-président de Béchir, qui à l'époque était un cadre islamiste. Il est accusé d'avoir fait le lien entre les mouvements islamistes et les militaires en vue de ce coup d'État.
Ce procès, donc, on l'imagine, très suivi forcément au Soudan.
Oui, depuis un an, depuis la chute d'Omar El-Béchir et l'instauration d'un gouvernement de transition, la majorité des Soudanais attend ce procès de Béchir et de ses cadres. En 30 ans, il a régné d'une main de fer, il a dissous des partis politiques, réprimé l'opposition, imposé des lois très strictes, restreignant les libertés individuelles, et lui et ses militaires sont accusés d'avoir commis de nombreuses exactions, notamment au Darfour. Donc oui, il y a une attente de la part de la population qui l'a renversé à ce qu'il soit traduit en justice. En début d'année, il a été condamné à 2 ans de prison dans un procès pour corruption, ce qui a provoqué une certaine colère, une certaine frustration chez certains qui estiment que cette condamnation est ridicule au vu des autres crimes qui lui sont reprochés. Donc il y a certainement une satisfaction aujourd'hui de le voir à nouveau dans le box des accusés pour des motifs beaucoup plus graves et qui pourraient lui valoir la peine de mort. Maintenant, il reste d'autres procédures de justice contre lui, et notamment celle de la Cour pénale internationale où il est recherché pour génocide au Darfour. Et là, de nombreux Soudanais du Darfour tiennent à ce qu'il comparaisse pour ses crimes.
Oui, ce qui amène justement d'avis à votre seconde question pour Alexandra.
Oui, la deuxième question, comment ce procès s'articule avec la procédure de la Cour pénale internationale?
Alors, pour l'instant, les crimes pour lesquels l'ex-dictateur est poursuivi au Soudan ne sont pas les mêmes que ceux de la CPI. On vient de le dire, il a été condamné pour corruption. Là, il est poursuivi pour sa participation dans un coup d'État. Donc, le fait d'être condamné au Soudan n'annule pas les poursuites engagées par la CPI. Maintenant, les autorités et les Soudanais eux-mêmes sont partagés sur la question de la CPI. L'année dernière, lors d'une tournée au Darfour, le premier ministre Abdallah Hamdok avait évoqué la possibilité d'un transfert. Les autorités avaient ensuite fait marche arrière. On avait parlé d'une erreur de traduction, d'interprétation de ses propos. Ce qui est certain, c'est que les militaires ne souhaitent pas envoyer Omar El-Béchir à la CPI, parce qu'un certain nombre d'entre eux sont eux-mêmes soupçonnés, même accusés de crimes au Darfour. C'est le cas notamment du général Emeti, qui est le numéro 2 du Conseil souverain et qui, à l'époque, était le chef des RSF, donc les forces de soutien rapide, ces milices Janjaweed, accusées d'exactions au Darfour. Par les civils, le sentiment est également partagée. Certains préféraient le voir jugé sur le territoire soudanais pour une question de souveraineté nationale. En tout cas, pour le gouvernement, il s'agit de trouver un équilibre, satisfaire les demandes de la population sans se mettre à dos les militaires qui font partie de cette transition. En février dernier, le porte-parole du gouvernement avait dit, je cite, « Nous avons pris l'engagement que ceux qui ont été inculpés seraient jugés en coopération avec la CPI. Ce n'est pas négociable. Maintenant, il faut déterminer les détails. Seront-ils transférés à la haie? Y aura-t-il un procès de la CPI au Soudan ou alors la création d'un tribunal hybride? Ce dernier scénario semble aujourd'hui être celui qui est privilégié. »
Merci Alexandra Branjon d'être venue répondre aux questions de Davy. Est-ce que vous avez bien suivi toutes ces explications, Davy?
J'ai bien suivi, je suis satisfait. Merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous et merci de votre fidélité à l'émission. Nous allons à Dakar maintenant. Amat est en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bonjour, RFI. Je dis bonjour à tout le monde.
Eh bien, merci, Amat, pour votre politesse et votre sollicitude. Ici, tout le monde va bien. J'espère que vous aussi. Vous avez des questions pour nous, puisque la Chine est accusée d'avoir interné dans la région du Xinjiang, la plus à l'ouest du pays, au moins 1 million de personnes de religion musulmane. La polémique a été vive cette semaine, avec notamment cette passe d'armes entre Pékin et Washington. La France a dû se positionner. Et vous avez justement des questions sur ce sujet.
Oui, justement, j'ai des questions sur ce sujet parce que c'est des musulmans et c'est pas parce que je suis musulman seulement que je défends leur cause, mais je veux juste savoir pourquoi la France a mis du temps pour réagir et demander l'envoi des observateurs indépendants en Chine pour pouvoir clarifier l'arrestation de ces centaines et des milliers de musulmans, les torturer alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien fait de méchant parce que tout simplement ils sont musulmans, on les torture de cette manière et que la France a mis beaucoup de temps sans réagir. Ça, c'est ma première question.
Eh bien, on va la poser à Heike Schmidt qui est avec moi. Bonjour Heike.
Bonjour François, bonjour Amat.
Du service international de RFI. C'est la première fois, Heike, que la France réagit aussi fermement. Pourquoi et pourquoi maintenant?
Et c'est vrai qu'elle a mis du temps, comme vous le dites, Amat. C'est en effet la première fois que la France dénonce aussi fermement les violations massives des droits de l'homme au Xinjiang. Et surtout, et c'est bien ça qu'il faut souligner, elle le fait officiellement et devant l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, lorsqu'un ministre français des Affaires étrangères a été en visite à Pékin, que ce soit Laurent Fabius ou ensuite et jusqu'à présent Jean-Yves Le Drian, et qu'il rencontrait la presse française à l'ambassade, eh bien, il nous disait, bien sûr, nous évoquons la question des droits de l'homme, mais on le fait discrètement derrière les portes closes. Une femme ouïghoure exilée en France aujourd'hui me l'avait d'ailleurs confirmé. Le président Emmanuel Macron était intervenu auprès de son homologue Xi Jinping. Il l'avait aidé à faire libérer sa mère, prisonnière à l'époque de l'un de ces camps de rééducation au Xinjiang. Mais bien, face aux atrocités subies par la minorité musulmane des Ouïghours, cette diplomatie dans les coulisses du pouvoir ne peut plus vraiment faire grand-chose.
Alors Heike, pourquoi maintenant ce changement de stratégie?
Alors il est clair que pour la France, qui se réclame pays des droits de l'homme, le silence devenait de plus en plus gênant. Difficile de rester de marbre quand d'autres pays, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, se mettent, eux, en première ligne pour dénoncer la répression des Ouïghours. Washington va d'ailleurs bien plus loin que la France en imposant des sanctions à de hauts fonctionnaires chinois. Pareil pour la mainmise sur Hong Kong. Là aussi, ce sont les Britanniques et les Américains qui osent durcir le ton et qui soutiennent fermement le mouvement pro-démocratie aujourd'hui, dos au mur suite à l'adoption d'une nouvelle loi draconienne sur la sécurité nationale. La France, jusqu'ici, en tout cas, préférait ne pas s'attirer les foudres de Pékin, certainement aussi pour des raisons commerciales.
Oui, mais il faut dire, Heike, que ces derniers temps, les preuves faisant état de ces crimes commis contre les Ouïghours, eh bien, se sont accumulées.
Oui, exactement. Et donc, la donne a changé. Il y a notamment les études du chercheur allemand Adrian Zenz. Encore récemment, il a prouvé que de nombreuses femmes Ouïghours ont été stérilisées de force. Et puis, des enquêtes du New York Times et du journal Le Monde ont mis la lumière sur les conditions carcérales qui qui règnent véritablement dans des camps, ces camps que Pékin appelle des centres de formation. Et enfin, on peut mentionner aussi la plainte de deux associations de Ouïghours en exil. Elles exhortent la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête. Tout cela met naturellement le gouvernement français sous pression. Et n'oubliez pas non plus la lettre des 30 députés français qui appellent le président Macron à agir. Paris s'est donc résolu à demander, d'ailleurs de concert avec l'Union européenne, l'envoi d'observateurs indépendants sur le terrain. C'est la seule façon, de toute façon, de savoir ce qui se passe véritablement dans cette région aujourd'hui totalement fermée.
Ahmad, vous avez une autre question pour nous.
Oui, j'ai une autre question pour vous et pour tout le monde, bien sûr. Cette Cour internationale et l'opinion internationale et l'Union africaine et le monde arabe, comment se fait-il qu'ils ne disent rien sur les faits qui se passent dans ce monde et les Nations Unies ne disent rien du tout? Comment la Chine a réagi quand la France a demandé l'envoi des observateurs au niveau de la Chine? Quelle a été la réaction de la Chine? Et je voudrais aussi également rajouter autre chose, je vous en prie, s'il vous plaît. Il y a le même cas qui se passe en Mauritanie où les Noirs sont privés de leur nationalité, ils sont incarcérés, ils sont privés de leur enseignement, de leur développement, et il y a l'esclavage de l'État, le racisme de l'État, et personne ne parle. Et la France, qui est l'État de droit de l'homme, qui se dit l'État de droit de l'homme, les Nations Unies, les autres États, l'Union africaine, personne ne dit rien du tout sur ce qui se passe également en Mauritanie.
Alors Ahmad, pour la question des négros mauritaniens et de l'esclavage qui se poursuit en Mauritanie, même s'il a été déclaré illégal il y a quelques années, c'est une question qu'on traite régulièrement sur RFI. On aura sûrement l'occasion, vous pourrez peut-être reposer une autre question une autre fois. Pour l'instant, on va rester sur les Ouïghours, puisque c'est le sujet qui nous intéresse et le sujet que Heike Schmidt maîtrise le mieux. Et elle va répondre à la question que vous posiez sur la réponse de Pékin, qui est la même que d'habitude.
Oui, pour l'heure, en tout cas, Pékin fait ce que Pékin fait à chaque fois, riposter et attaquer l'ingérence dans ses affaires intérieures. Une vraie guerre des mots s'est engagée ces derniers temps, et même plus que cela, lorsque Washington a imposé des interdictions de territoire à trois hauts fonctionnaires, eh bien la Chine a tout de suite annoncé des sanctions similaires contre des hauts responsables américains. Et lorsque les Américains ont fermé il y a trois jours le consulat chinois de Houston, eh bien Pékin a fermé ce matin le consulat à Chengdu, le consulat américain bien sûr. Et sur le fond du dossier, Ahmad, la Chine se défend et se félicite qu'il n'y ait plus d'attentats commis au Xinjiang. De toute façon, elle dément toujours qu'au moins 1 million de Ouïghours sont détenus dans ces camps de rééducation. Officiellement, il s'agit juste de centres de formation destinés à aider les Ouïghours à trouver des emplois dans le but de les éloigner de la tentation de l'extrémisme religieux. Et bien sûr, tous ceux qui critiquent cette version officielle chinoise risquent gros, très gros. Des journalistes qui enquêtent sur le terrain sont d'ailleurs expulsés, et le chercheur Adrian Zenz, dont je parlais tout à l'heure, a lui reçu des menaces de Pékin, et Pékin fait tout pour le discréditer.
Merci Heike Schmidt d'être venu avec nous répondre aux questions de Ahmad, notre auditeur sénégalais. Et merci à vous Ahmad, en ligne de Dakar, pour votre curiosité, pour votre inquiétude sur ce sujet des Ouïghours. Direction Conakry, bonjour Satigui.
Bonjour François Mazé, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous avez des questions sur les possibles ingérences russes dans la politique britannique, allez-y.
Bien entendu François, c'est un rapport parlementaire dévoilé mardi, l'ingérence russe lors du référendum sur l'indépendance de l'Écosse et le Brexit, et dénonce aussi l'attitude du gouvernement. Comment la Russie aurait-elle influencé ces deux scrutins?
On va le demander à Muriel Delcroix, correspondante de RFI à Londres, qui est en ligne aujourd'hui. Muriel, bonjour. Merci d'être avec nous pour répondre aux questions de Satigui. Alors, que contient ce rapport qui permet de pointer un doigt accusateur en direction de Moscou? Donc, comment la Russie aurait influencé ces deux scrutins mentionnés par Satigui?
Alors, en fait, le rapport ne répond pas précisément à cette question parce que les députés de la Commission n'ont pas réussi à trouver des preuves d'ingérence russe, que ce soit dans la campagne du référendum sur le Brexit ou celui sur l'indépendance de l'Écosse. La Commission dit qu'elle aurait voulu pouvoir mener une enquête approfondie sur ces deux référendums, mais qu'elle n'a pas pu parce que les agences de renseignement britanniques étaient très réticentes à collaborer. Ceci dit, les auteurs disent que leur rapport est accompagné d'une annexe qui donne, elle, plus de détails, mais qui n'est pas publiée pour le moment à cause justement justement des menaces posées actuellement par la Russie. Le rapport lui-même a été lourdement expurgé, voire censuré, et il laisse du coup plein de questions sans réponse. Concernant le Brexit, le rapport s'appuie sur des informations qui sont en fait largement accessibles au public et qui pointent à l'époque en 2016 sur des sujets pro-Brexit et anti-Union européenne qui étaient diffusés par les médias russes, Russia Today et Sputnik. Le rapport parle aussi de l'utilisation de bots et de trolls comme preuve d'une tentative de Moscou d'influencer la campagne et le référendum. Alors les bots, ce sont des programmes informatiques qui imitent l'activité des internautes humains et qui sont en gros des comptes automatiques. Et puis les trolls, ce sont des comptes cette fois contrôlés par une vraie personne qui envoie des messages ciblés pour essayer d'influencer une campagne.
Alors selon ce rapport, Muriel, les autorités auraient été inactives. Est-ce que c'est vrai que le gouvernement britannique n'a rien fait? Est-ce qu'une enquête est prévue?
Oui, les députés qui vont travailler sur ce rapport sont convaincus que les autorités britanniques n'ont rien fait et ont sciemment détourné les yeux. C'est même leur reproche principal. Une absence de réaction des gouvernements successifs, que ce soit David Cameron, Theresa May et Boris Johnson, face à cette ingérence russe dans la politique britannique. Les députés demandent donc que soit menée une enquête sur le sujet. Ils réclament des mesures immédiates pour contrer cette menace, selon eux, largement et depuis trop longtemps sous-estimée. Le rapport s'est penché sur les campagnes de désinformation, les cybertactiques et puis l'influence des riches expatriés russes au Royaume-Uni qui ont donné beaucoup d'argent, notamment au parti conservateur au pouvoir depuis 10 ans. Et puis le rapport conclut que le pays est une cible de choix pour Moscou. La commission écrit que Londres notamment est devenue ces 25 dernières années une véritable laverie automatique pour l'argent sale russe, mais qu'aucun gouvernement ne veut s'attaquer à ce dossier brûlant. Le Premier ministre Boris Johnson a d'ailleurs été accusé de retarder pendant des mois la publication de ce rapport peu flatteur pour son parti. Et puis Downing Street vient d'opposer une fin de non-recevoir à toute enquête sur une quelconque influence sur le référendum du Brexit.
Muriel, très rapidement, parce qu'on est très en retard, la Russie, comme d'habitude, a tout nié en bloc.
Oui, elle dément complètement ces allégations sans fondement. Pour elle, ça traduit de la russophobie. La publication du rapport intervient en fait dans un climat orageux entre Londres et Moscou. Jeudi dernier, le Royaume-Uni a mis en cause des acteurs russes dans des interférences pendant la campagne, cette fois pour les législatives de décembre dernier. Plus globalement, ces relations sont au plus bas depuis en fait l'empoisonnement avec un agent neurotoxique à Salisbury en mars 2018, de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille. Et puis, les pays en fait entretiennent des relations très ambiguës, notamment les Britanniques, qui sont à la fois attirés par la manne financière russe, mais qui ne peuvent que condamner l'impunité du Kremlin.
Merci Muriel Delcroix d'avoir été en ligne et d'avoir répondu aux questions de Satigui, notre auditeur de Conakry, qui j'espère a pu entendre l'ensemble de ses explications. Alors nous devions avoir Innocent en ligne de Yaoundé pour parler du conflit Arménie-Azerbaïdjan. Malheureusement, nous n'arrivons pas à le joindre tout de suite, mais je vais relayer ses questions en espérant qu'il puisse nous entendre. Je vais les relayer à Daniel Vallot. Bonjour Daniel.
Bonjour François, bonjour à tous.
Merci d'être en ligne. Alors Innocent voulait revenir sur ces combats qui ont repris à la frontière entre les deux pays, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Déjà, ça ne s'est pas passé dans le Haut-Karabakh, cette région montagneuse contrôlée depuis 1994 par l'Arménie et revendiquée par l'Azerbaïdjan. Quelles explications peuvent être avancées à ce conflit, Daniel?
C'est vrai que les observateurs ont été surpris de voir ces affrontements dans ce secteur-là, à la frontière, parce que d'habitude les tensions sont plutôt autour du Haut-Karabakh. Alors, quelle explication avancée? Il y a, pour simplifier, deux camps parmi les observateurs aujourd'hui. Certains estiment que ces incidents ont été délibérément provoqués par l'un ou l'autre des deux pays, mais on ne sait pas lequel. Peut-être, dit-on, pour détourner l'attention de leurs populations respectives des difficultés actuelles avec la crise économique et le coronavirus. D'autres observateurs estiment possible, au contraire, que ce soit tout simplement un incident fortuit qui a provoqué les affrontements, une absence de communication entre les états-majors des deux pays sur un secteur frontalier qui n'est pas le Haut-Karabakh, mais qui est tout de même surarmé et surprotégé des deux côtés. En réalité, François, on ne sait pas aujourd'hui ce qui a pu provoquer ces affrontements. On ne sait pas non plus pourquoi ils ont eu lieu dans ce secteur précisément. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que le fait que ces affrontements se déroule dans ce secteur-là pourrait paradoxalement contribuer à apaiser les tensions. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de civils dans ce secteur de part et d'autre de la frontière. Les tirs d'artillerie pourraient donc avoir des conséquences terribles et ça peut modérer les états-majors des deux pays. Ensuite, parce qu'il y a aussi des infrastructures très importantes dans ce secteur pour les deux pays, des axes routiers, des axes ferroviaires, des oléoducs, une escalade militaire à cet endroit-là aurait donc potentiellement des conséquences très lourdes et pour l'Arménie et pour l'Azerbaïdjan.
Merci Daniel Valo, je m'excuse, on est obligé de vous couper, on est très en retard ce matin.